Oui, bonsoir, bonjour à tous, bonjour à tous, j'étais un petit peu en avance. Je sais pas ce qui m'a pris, mais en fait, il y a un truc qui est déréglé, il n'y a pas la même heure sur les deux.
D'accord, on a gagné une minute quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu le changement d'heure.
J'espère que vous allez bien, les auditeurs, auditeuristes.
Très certainement, on va porter un peu de soleil dans cette journée.
Ah mon Dieu. Mon Dieu. Oui, c'est la Rollmops 68, les amis.
On exactement.
Est très content de vous retrouver.
Sans Rolex.
Tout à fait. Voilà. Eh bien, on va voyager, mais c'est surprenant. C'est peut-être c'est même la première fois. Nous n'allons aller que dans 5 endroits différents.
Eh oui.
Eh oui. Avec quand même une majorité aux US. Alors, on va aller à Detroit en 98. On va aller à Philadelphie en 62. Et on va aller à Tucson, Arizona, en 85, en 92, en 2005 et en 2015. Rien que ça.
Carrément.
Paris 64.
Oui.
Et Londres, 59, 66, 67 et 2024. Bon. Oui, c'est un voyage dans le temps. Hein. Donc c'est plutôt une bonne idée de rester comme ça longtemps dans la même ville. On va pouvoir voir la coloration musicale de la cité.
C'est voilà. Ça. Alors moi perso, c'est plutôt une spéciale loser. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, ouais, d'une certaine manière, il y aura un peu de ça aussi chez
c'est
moi.
C'est ça. Après,
ouais.
C'est la numéro 68, donc c'est peut-être pour ça. Mais 68, c'est hein, bon, c'est
n'importe quoi.
On n'a pas de Rolex, nous sommes donc des losers.
Mulhouse, tu vois. Ouais, 68,
c'est ça.
Bande continuons Toulouse. L'humour géographique.
Très bien. Mais puisque tu as la parole, je pense que c'est toi qui vas commencer la programmation, je crois.
Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi cette programmation. On va parler beaucoup de Tucson. Donc, lors de ma première venue dans l'émission, la Rollmops numéro 35, je voulais programmer ce que je voulais vous faire écouter aujourd'hui. Mais je n'arrivais pas à choisir un seul titre. J'ai donc repoussé à plus tard, puis à plus tard. Et finalement, il m'aura fallu attendre 33 émissions avant d'y parvenir. Donc aujourd'hui, je vous propose une exploration donc, en profondeur de l'œuvre d'un musicien américain. En effet, le bonhomme a plus de 40 albums au compteur, en solo ou en groupe. Et pour restituer ces différentes époques, c'est pas un, ni deux, ni trois, mais quatre morceaux que je vais vous proposer, un par décennie, dans cette émission. Donc le personnage en question, il est né en 56, il s'appelle Howie Gelb. Donc au début des années 80, c'est sous l'influence de son mentor, le guitariste Rainer Ptasek, que Gelb va venir poser ses valises dans le désert de Sonora, au sud de l'Arizona. Il fonde alors The Giant Sandworms et pose les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui le Tucson Sound ou le Desert Rock. Le premier album du groupe, donc le groupe se rebaptise Giant Sand, sort en 85, il s'appelle Valley of Rain et sortira en France sur New Rose. Autour de Wigelb, donc au chant et à la guitare, on retrouve Scott Garber à la basse et Winston Watson à la batterie. La chanson qu'on va écouter tout de suite est initialement sortie sur ce premier album, mais c'est une version réenregistrée en 2018 qu'on va entendre. Howie Gelb avait en effet demandé aux musiciens originaux de Giant Sand de revenir enregistrer les deux premiers albums du groupe 30 ans plus tard.
Voilà.
Petite frustration par rapport au son originel. Et on écoute donc sans plus attendre le morceau qui avait clôturé leur concert à Orléans à l'Astrolabe en 2015. Le morceau s'appelle Tumble and Tear.
Try to see, but it's too
d'écouter deux morceaux de Giant Sand, donc, mais dans deux configurations différentes. Donc le second titre intitulé Milkshake Girl est issu du 8e album sorti en 92, donc on a démarré en 85, on est déjà au 8e en 92. L'album Center of the Universe, qui était un peu l'album qui a permis de mettre le plus la lumière sur le groupe. Donc sur ce titre, Wiggle est accompagné par le batteur John Convertino et par le bassiste Joey Burns. En effet, les précédents musiciens ont été débauchés par Bob Dylan et par Jonathan Reichman pour les accompagner sur scène. Donc il a fallu qu'ils récupèrent d'autres musiciens. On reparlera de cette formation, donc Gelb plus Convertino plus Burns, qui est fréquemment considéré un peu comme le line-up classique de Giant Sand. Il va durer globalement toutes les années 90, avant que les deux acolytes décident de voler de leurs propres ailes au sein du groupe Calexico. Voilà, mais la suite au prochain épisode. Eh bien, on ne t'entend pas, Blutch, en fait. Excuse-moi, je vois
je parle dans le micro et voilà. Je ne savais pas, du coup, que les gens de Calexico venaient de Giant Sand.
Voilà.
Je viens d'apprendre un truc. C'est
ah oui.
C'est fabuleux.
Ah bah oui, on apprend des choses, Rollmaps.
Bah, exactement.
Hein, voilà.
Et voilà.
Ah, les amis, alléluia. Les alléluia. vous savez mon attachement pour les Prisoners, bien sûr.
Évidemment.
Ah, ben ça,
et toutes
ça.
Leurs émanations, et les James Taylor et compagnie. Eh bien, alléluia. Parce que après A Taste of Pink en 82, The Wizard Miser de Melza en 83, The Last Four Fathers en 1985 et In From the Cold, le magnifique In From the Cold en 86, eh bien, je n'en crois pas mes yeux, mes oreilles, les Prisoners viennent de sortir un cinquième album avec le line-up d'origine.
Eh oui, oh. C'est fou ça.
Eh
c'est
oui.
Fou.
Sortie de prison.
C'est ça. Ouais.
Le LP s'appelle Morning Star. Alors on retrouve le line-up, donc Alan Crockford à la basse, Johnny Simons à la batterie, Graham Day bien sûr, chant et guitare, et le retour de Jamie Taylor au clavier.
Voilà, qui d'ailleurs, hein, c'est lui qui assure l'orgue, on le paye tous les 15 jours pour venir faire de l'orgue derrière nous pendant qu'on parle dans les voilà, micros.
Merci James,
il est trop cool ce gars.
Alors le disque est entièrement produit par les Prisoners, hein, et tous les titres sont signés Crockford, Day, Taylor, Simons. Pas mal, hein, la classe. En fait, cet album fait suite, on le sentait un petit peu venir, hein, enfin moi je ne l'ai pas senti venir, mais suite à la reformation du groupe, hein, pour leurs 40 ans, on voit pas mal de vidéos sur le net, hein,
oui.
des concerts où ils assurent vraiment bien, hein, c'est un best-of en fait, des Prisoners sur scène, hein, mais vraiment ça joue. Hein. Et puis le James Taylor, bah, il a de la bouteille maintenant, hein, donc il est bien meilleur qu'il n'était au départ. Notamment sur un de ses lives, on voit un medley Hush, I Can Dance With You des Small Faces qui est magnifique. En fait, le son, on va le voir, hein, c'est étrange. Enfin, c'est pas étrange, c'est vraiment un mélange entre la fin des Prisoners et dans l'esprit du James Taylor Quartet. En fait, on voit vraiment le mélange des deux. Et la pochette, elle est magnifique. La pochette, elle est tout à fait dans l'esprit acid jazz, en fait. Hein. Voilà, donc on va écouter deux morceaux de cet album. On va écouter The Green Meteor et Something Better. Mesdames et messieurs, les Prisoners! Retour des Prisoners avec deux morceaux, d'abord Green Meteor et Something Better. Je disais hors micro à Ririk, le premier morceau il aurait très bien pu être sur le deuxième ou le troisième album du James Lord Quartet.
Oui.
Et sur le deuxième ou le troisième album des Prisoners.
Oui, ouais. Tout à fait. Et surtout le deuxième titre là, il est vraiment Prisoners sa mort. Et,
oui, ça, oui,
et
oui.
La voix de Graham Dean n'a pas du tout changé. Oui, c'est extraordinaire.
Oui.
En fait, jeune, il avait une voix de vieux. C'est un peu ça.
Non, c'est bien. Tout l'album est vraiment agréable. Il y a beaucoup. Très pop en fait, là on le voit, hein, les ouais. super mélodies, des chœurs chiadés, un petit peu de recherche musicale avec James Taylor, hein, il est quand même allé dans d'autres horizons depuis les Prisoners. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon album, c'est pas simplement parce que je suis content de retrouver les Prisoners, mais je l'ai écouté vraiment avec un grand plaisir, donc n'hésitez pas à aller acheter Morningstar des Prisoners, voilà.
Ah ben, super.
Très bien, bien écoutez, moi je vais rester en Angleterre, hein,
Le mec des losers.
Oui, tout à fait, oui, avec... Avec tout d'abord un personnage qu'il faut présenter par l'image. C'est un jeune homme, hein, les cheveux gominés, habillé de cuir noir, des pieds à la tête, et puis les mains gantées également. Mais également une chaîne de vélo autour du cou avec au bout une médaille de Jeanne d'Arc.
Ah bon ?
Donc, on est en plein dans la provo, quoi. Ce jeune homme, eh bien, c'est Maurice Brian Holden, eh oui, qui est né le 14 juillet 1939 à Londres, mais qui quitte l'Angleterre à la fin des années 40 pour aller aux États-Unis, notamment dans le New Jersey, puis à Hollywood. Et puis à cette époque, ben, Maurice, on va l'appeler Maurice, rêve de devenir aviateur. Bon, après, il n'est pas très bon en sport, donc du coup, c'est mort pour lui. Et si bien qu'il se tourne plutôt vers la musique, et notamment Elvis Presley, qui l'influence énormément, comme tous les jeunes, hein, de l'époque, à la fin des années 50. Et mais en 58, notre ami Vince retourne en Angleterre, accompagné de Joe Singer, qui est le premier mari de sa sœur Sheila, et combien tenter sa chance. Alors du coup, il se présente comme un Américain. il parle avec l'accent américain, il est habillé comme l'américain, il a la classe. Et puis surtout, il change de nom. Maintenant, il s'appelle Vince. Il s'appelle Vince Taylor. Et puis, donc, il se compose, donc, ce personnage, comme j'ai décrit tout à l'heure. Donc, très influencé par Gene Vincent, quand même, avec le pantalon de cuir noir, bien évidemment. Et puis, il forme un groupe. Donc, les Playboys, avec Brian Bennett à la batterie, Brian Locking à la basse, Tony Sheridan à la guitare, le fameux Tony Sheridan, celui qui a les Beatles comme backing band à Hambourg, hein, au début des années 60. Donc, quand même du bon monde. Ils enregistrent un premier 45 tours. Qui fait un flop total, qui s'appelle Brand New Cadillac, c'est quand même étonnant, en 1959. Et puis du coup, vu que c'est un flop total, il décide de se barrer en France. Et puis effectivement, il est bien accueilli par les chaussettes, les chaussettes sauvages, Danny Boy et Johnny Hallyday, et puis notamment par Eddie Barclay qui se dit ah là il y a moyen de faire un truc. Mais il vient en France du coup avec un nouveau groupe des Playboys, et il garde le même nom, Johnny Vance à la basse, Alain Lecalire à la basse, et puis un pianiste Bob Steele, et puis surtout Bobby Clark à la batterie, le fameux batteur avec deux grosses caisses. Je crois que c'est le premier batteur à avoir deux grosses caisses. Voilà. Et puis là donc du coup, ben Barclay évidemment. Les signes, là ils enregistrent tout un tas de reprises, donc Chuck Berry, Sweet Little Sixteen, qui est vraiment, il fait des versions super bien en fait, il est réhausse quelque part. Le Tutti Fly Rock d'Eddie Cochran avec un solo de batterie en plein milieu, Long Tall Sally de Little Richard, le fameux Shaking All Over de Johnny Kidd, tout le monde pense que c'est de Vince, mais pas du tout, c'est Johnny Kidd, d'ailleurs celle de Vince Taylor est vraiment nettement mieux. Je ne sais pas si les Who font hommage à Johnny Kidd ou à Vince Taylor, peut-être aux deux, hein, dans leur reprise Live at Lee's. Allez savoir. Et puis il enregistre également son Brand New Cadillac, une meilleure version que sur le 45 tours qu'on va écouter tout à l'heure en premier morceau. Morceau qui a notamment été repris par les Clash sur le double album London Calling en 79-80. Sachant que, voilà, en Angleterre, les modes tapaient les rockers, les rockers tapaient les modes. Et en fait, les Clash, en prenant ça, c'est comme si en gros ils voulaient, allez, c'est bon les gars, on est tous des moqueurs. Hein, c'est l'unité entre les modes, les punks et les rockers. En plus d'avoir des disques super, les shows sont terribles, parce que ça préfigure réellement les Beatlemania, puisque là on est vraiment au tout début des années 60, c'est des émeutes permanentes, c'est également aussi, ça préfigure le punk, puisque lui sur scène, il casse tout, voilà, cuir, il casse tout, il ravage tout, le public est en transe totale, on a des salles qui sont saccagées, notamment le saccage du Palais des Sports en 61, donc ça marche vraiment.
Non, tu parles de Gilbert Bécaud là.
Non, pas du tout, je parle de Vince. Bon, alors du coup, c'est super bien, tout ça, ça lui fait une bonne répute, mais l'ennui, c'est que les salles ne veulent plus le produire, puisqu'il casse tout. Et puis surtout, c'est que la concurrence qu'il avait bien accueillie, hein, les Chats Sauvages, Chaussettes Noires et compagnie, ben, en fait, eux, ils chantent en français, et le public français commence à préférer les yéyés français à ce bon vieux Vince. Donc du coup, bon ben lui, ça lui fait un peu mal. Alors du coup, ben il commence déjà à tomber sévèrement dans le jaja et dans la dope, mais là, à cette époque-là, plutôt dans le jaja. À partir de 64, il essaye de se rebondir, mais il est déjà un peu has-been, quoi, parce que il a plus la banane, il a plus une coupe de cheveux qui ressemble à celle de Bill Wyman des Rolling Stones, d'ailleurs, tout plaqué sur le devant, il ressemble plus trop à rien, mais néanmoins, il a commencé à bien attaquer les Purple Haze, et il est un peu en hippie clochard 10 ans, hein, il se défonce quand même pas mal. Néanmoins, du coup, il enregistre un nouvel album en 64, accompagné cette fois avec le Bobby Clark Noise, parce que Bobby Clark l'a viré entre temps, tellement était défoncé, et donc du coup les Playboys sont devenus les Bobby Clark Noise, et ils font la première partie malgré tout des Rolling Stones à l'Olympia, et là Vince il assure quand même bien, donc là hyper relancé, il se dit ouais, c'est bon là, ça va le faire. Il décide, Barclay leur programme trois autres concerts à la Locomotive le mois suivant. Tout le groupe reste, lui il retourne à Londres pour effectivement pour récupérer des liquidités pour le groupe. Sauf que quand il retourne à Londres, eh bien il se retrouve dans une soirée où il y a Bob Dylan qui est en tournée en Angleterre, et puis il y a également aussi Nico qui est là, et puis il y a un peu tous les proto psychédéliques, et puis là par contre il gobe du LSD et il reste réellement scotché. Donc il arrive, non mais c'est fabuleux cette histoire, il arrive à la Locomotive genre un quart d'heure, une demi-heure avant le premier concert, il se prend pour Jésus, il est complètement défoncé, il a une bouteille d'eau dans la main, il se prend pour Jésus, enfin bref, ils arrivent à monter sur scène, le groupe envoie, il fait deux chansons, ça marche à peu près, là ils entament Jezebel, parce qu'ils reprenaient également Jezebel, la chanson de Charles Aznavour, et là au fait ils descendent dans le public et ils bénissent tous les gens avec de l'eau. Là, le groupe se casse, c'est l'émeute totale, la Locomotive est complètement ravagée et complètement défoncée, à savoir que sa frangine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien en fait elle avait un nouveau conjoint qui n'était autre que l'un des deux patrons des dessins animés Hanna-Barbera, qui était présent pour évaluer la possibilité de développer la carrière de Vince aux États-Unis. Inutile de vous dire que c'est complètement la loose totale. Bon, Vince retourne en Angleterre, et puis là, il y a un jeune mode qui traîne dans les rues de Londres, qui s'appelle David Jones, qui va bientôt devenir Bowie.
David Bowie.
Et puis, qui le rencontre et qui discute avec lui. Et ce fameux Bowie-là, dès 1976, affirme qu'il s'est inspiré de Vince Taylor pour créer le personnage de Ziggy Stardust.
Ah bon ?
Ouais. Il le répétera également dans les années 90 et dans les années 2000.
Ah, dis donc.
Donc voilà. Alors après, la suite, évidemment, Vince, il se clochardise, il est complètement à la rue. Il tourne pas mal en France, enfin, ils essayent dans les pizzerias. Il traîne à Mâcon, notamment. Il traîne aussi pas mal sur Orléans, dans le Berry, vers Étampes. Il fait quelques passages télé, on peut le voir notamment dans l'émission Russe, Antoine Decaune, oui. Juste avant les Enfants du Rock. Enfin bon, c'est un peu la loose. En 83, il part en Suisse avec sa femme de l'époque. Et puis, au fait, il meurt en 91 suite d'un cancer, je crois, des os. Voilà. Donc bon, un peu une carrière éclair, 5 ans en tout, véritablement. Bon, néanmoins, je vous propose d'écouter donc ce fameux tube, Brand New Cadillac. C'est un classique, mais ça fait du bien. Et ça sera enchaîné avec un morceau donc enregistré dans la saison de 64, qui n'est autre qu'une reprise du Summertime de Gershwin, et une version que je trouve est réellement hallucinante. On y va, Vince Taylor.
Ooh, and the living is easy.
Waouh.
Yeah.
Quelle étonnante version. Alors, c'est incroyable.
Bon, Bobby Clark à la part belle. Hein, vous voyez, la batterie sans voix mort, mais super, super interprétation.
Disons que j'en connais des versions de Summertime, même un paquet, parce que pour écouter du jazz, j'en connais un paquet. C'est vraiment. Là, il y a vraiment une vraie réinterprétation, il y a un vrai choix, il y a une vraie appropriation, c'est incroyable.
Ah oui, c'est clair, c'est incroyable. Alors, bon, tout à l'heure, on a repris par les Clash, tout ça, mais je pense que le Psychobilly, les groupes comme les Meteors n'auraient jamais existé, certainement, sans Vince Taylor. Enfin, c'est vrai, c'est qui Stardust, enfin, c'est réellement quelqu'un qui, ça a été une étoile filante, là, un peu comme les 68, vous voyez, c'est un épiphénomène, mais qui laisse des traces dans le, pour le futur. Donc, vraiment, moi, j'adore Vince Taylor.
Voilà. Ouais, mais puis il a une voix d'enfer.
Ah ben, il chante super bien.
Il a rien à envier à Cochrane.
Carrément.
Vincent, hein,
même il a des inflexions en fait que tu vas pas trouver chez les autres qui d'ailleurs tu vois ce que ça a pu influencer chez un Bowie, mais même une ou deux inflexions me faisaient même penser à Doherty, tu vois, c'est cette façon là dans les façons d'aller
à
chercher
l'anglaise.
Des trucs un peu à l'anglaise, ouais.
Et bien incroyable. Je connaissais pas du tout cette reprise, bah, c'est superbe.
Merci beaucoup. Et bien retour à Tucson, Tucson Arizona avec Howie Gelb. Donc on passe dans les années 90, la fin des années 90 et le début des années 2000. Voyager Ensemble perd de son influence. Probablement la faute à une discographie aussi abondante qu'inégale. Oui. D'autres projets sont lancés en parallèle parce qu'il y a la discographie principale de Giant Sand, mais il y a tous les autres projets autour, donc OP8 avec Lisa Germano, un projet country avec Tom Larkins et John Covertino qui s'appelle The Band of Blackie Ranchette. Et finalement, Burns et Covertino, on l'a dit tout à l'heure, prennent leur distance et s'investissent surtout dans Calexico, dont le premier album rencontre un grand succès critique, ce qui laissera un petit peu d'amertume à Howie Gelb. Je le tiens de première truc parce que pour en avoir discuté avec lui directement, ouais, il est un petit peu amer de ça quand même. Hein. De son côté, donc, Gelb multiplie les albums solo, tantôt au piano, tantôt aux côtés de musiciens venus d'horizons différents. Donc dans le désordre, hein, dans les années 2000, il va monter un line-up danois de Giant Sand, donc c'est des musiciens danois. Il va s'envoler à Cordoue pour enregistrer un très bon album sous inspiration flamenco qui s'appelle Howie Gelb and the Band of Gypsies. Il fait des duos avec des voix féminines telles que Pidgey Harvey, Amparo Sanchez ou Ana Karina en 2018. Un duo complètement improbable, une chanson d'amour, moitié français, moitié anglais, peu avant la mort d'Ana Karina. C'est à écouter, c'est un truc assez particulier. Et au milieu de tout ça, il sort en 2006 un projet gospel avec des musiciens canadiens. Projet gospel qui s'appelle Snow Angel Like You. Donc accompagné par une chorale, The Voices of Praise, Howie Gelb signe un album de haute volée qui rappelle sa contribution essentielle à la scène americana moderne. On écoute sans plus attendre un extrait de cet album. Le titre s'appelle Paradise Hereabouts. C'est parti.
Are you searching for situation with less hurt and affiliation? Do you so feel it when you can't believe your eyes? Welcome to paradise.
Paradise.
Are you longing for infiltration somewhere under the radar in the entire nation? Would you know it even before compromise? Welcome to
paradise.
Paradise. Sometimes drifting can be so stunning, but the current can also be a cunning. If you drift too far from where the shore lies, getting back is paradise.
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 Paradise. Are you middle-aged or maybe older with a creviced face when the season seems colder? But can you ever remember a time easier to separate the truth from the lies? Well then, welcome to
paradise.
Paradise.
Paradise. minds don't care. It's getting outrageous, but I don't think it's contagious. All so perplexing. Glad you don't mind me texting. Calling from the future, such an open wound. A song can be a suture, band-aid a tune. When love is angry, and love turns deadly, and the days become a Leonard Cohen. Steady on, steady on, and the days become a Leonard Cohen. Steady on, steady on. Go down to Mexico. The silence is the hardest part when you're suffering. Tinnitus of the heart. Love is angry. Love's turned deadly.
Quatrième et dernière étape de notre périple en Arizona. Avec
on voit l'étendue du talent et des différents styles musicaux. Hein,
ah, voilà. Avec l'ultime album donc, de Giant Sand, dans sa troisième incarnation, donc le groupe Giant Sand, ou Giant 3 Sand, avec le temps, ils changeaient le nom du groupe. Donc l'album s'appelle Heartbreak Pass, on vient d'écouter Texting Feist, qui fait référence à la chanteuse canadienne Feist, je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse canadienne, et à Leonard Cohen, parce qu'il dit on se sent comme dans un medley de Leonard Cohen dans le refrain, il dit ça. Voilà, donc là-dessus, donc un album produit donc par John Parrish. John Parrish, ça vous parle peut-être, le célèbre producteur de PJ Harvey, avec la collaboration de deux musiciens qui viennent du groupe Chicha, X-I-X-A, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est la nouvelle scène de Tucson. Ils sont passés plusieurs fois en France, c'est des tout jeunes. Brian Lopez et Gabriel Sullivan. On a le retour du batteur historique Winston Watson, qui pour les connaisseurs de la tournée de Bob Dylan après 500 dates sur scène avec Dylan, batteur ultra puissant, est revenu jouer avec Giant Sand. Donc l'album, on y retrouve aussi Grantley Phillips, qu'on connaissait comme Grantley Buffalo pour les amateurs
trucs-là. Oui, oui.
On y retrouve Jason Little de Granddaddy, un peu toute cette petite famille de gens-là. Donc Voilà, et Steve Shelley de Sonic Youth, parce que lui il est toujours partout, il est toujours en train de traîner partout. Sur l'album suivant, petite référence, le réenregistrement du premier album, on trouve Kid Congo Powers qui aujourd'hui vit à Tucson. Voilà, et tu n'as toujours pas de micro, mon cher Blublu.
Bah, écoutez, c'est fou ça. C'est voilà. J'ai un micro baladeur en fait.
Voilà, donc pour conclure, c'était cet album donc, que Giant Sand était venu à l'Astro en 2015, sur une très belle soirée avec la pop orchestrale islandais Junius Maven qui était en première partie. Moi j'avais eu l'occasion de le rencontrer ce soir-là, donc charisme, classe, authenticité, simplicité, gentillesse, curiosité, fait partie vraiment des musiciens que j'ai eu vraiment grand plaisir à rencontrer.
Puis il a une gueule, hein.
Il a une gueule, et puis ça s'entend sur les chansons. Il articule bien, c'est très facile de comprendre.
Ah oui, c'est vrai,
ce qu'il
oui.
dit. Si vous n'êtes pas très fort en anglais, c'est quand même quelqu'un avec qui vous pouvez échanger assez facilement.
C'est un groupe pour français.
Voilà, donc ça m'a fait plaisir de rendre hommage donc, à Howie Gelb pour cette Roll Mob 68. Et promis, je n'abuserai plus à l'avenir en programmant 4 titres du même artiste.
C'est pas grave,
dans la même ville.
Tu fais ce que tu veux.
Alors, Gelb en allemand, ça veut dire l'argent.
Jawohl.
Dites-moi, mon cher Lolo, si oui. Je crois que c'est le grand retour de The Last But Not Least, cette petite séquence qui avait eu tendance à disparaître ces derniers temps.
Oui, ou alors elle avait pris un peu d'autre forme, mais oui, bien sûr. Une séquence durant laquelle je propose à vos oreilles deux morceaux, deux versions d'une même chanson, à vos oreilles également aimables. Eh bien, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Richard Barrett, qui n'est pas le père de Syd Barrett, qui est né en 1933. Il aurait pu, hein. Eh bien, ce monsieur, il était chanteur, producteur, auteur, compositeur américain. D'abord, donc producteur à Philadelphie dans les années 50. Il était influent dans la formation du mouvement Rhythm and Blues local. Barrett a découvert et promu des groupes qui ont eu leur heure de gloire dans les années 50. Frankie Lymon and the Teenagers, The Chanters, Little Anthony and the Imperials, The Valentines et The Three Degrees. Il a géré les Chanters dans les années 50, puis les Three Degrees au début des années 60, au début des années 80. Du début des années 60 au début des années 80. Produisant plusieurs de leurs albums et dirigeant l'orchestre lors de leurs concerts. En tant qu'artiste, Barrett a chanté pour les Valentines de 54 à 57. Il a coécrit deux chansons avec Carl Hogan des Valentines, donc Be Sure My Love et So Much, qui ont eu une petite aura locale. Alors, il a joué du piano aussi, de la basse, de la batterie. Et Barrett a produit plusieurs des disques des Chanters, donc il était producteur, chef d'orchestre, musicien en tout genre, et déceleur de talent. Alors en tant que chanteur, le premier single de Barrett était une reprise de Come Softly to Me des Fleetwoods. Mais surtout, il enregistra, et c'est la raison pour laquelle je vous parle de Richie Barrett, le titre Some Other Guy en 1962. En 62, sa carrière était déjà bien entamée, hein, ils avaient oui. plus de 10 ans qu'ils se produisaient. Donc, et c'est un morceau signé Barrett et les frères Leiber et Stoller.
Déjà.
Oui. Il est inspiré du What I Say de Ray Charles. Ah, quand on l'entend, quand on le sait, on se dit ah oui, effectivement.
Oui, et même le timbre de la voix est assez
oui,
similaire.
Oui. Le titre, bien sûr, il est connu parce qu'il a été repris par les Beatles et d'autres groupes de Liverpool également de l'époque, hein, dont les Searchers et le Big Three. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît bien ce morceau? Parce qu'en 62, un clip a été produit et diffusé par la BBC. Il s'agit en fait d'un extrait d'un concert des Beatles au Cavern Club, hein, le célèbre club de Liverpool, qui a été remasterisé. C'est très bien fait. Et le titre choisi, eh bien, c'est « Some Other Guy », bien sûr. Ce qui déclenchera un succès mondial. Voilà pourquoi, effectivement, le succès est... Il faut quand même bien comprendre que le morceau donc, sort en 62 par Barrett. Et c'est en 62 que... Enfin, les Beatles le jouent dès 62, hein, c'est incroyable. C'est comme si on reprenait un morceau qui était sorti là, au hit parade. Alors, on va écouter donc, cette version de Richie Barrett, donc issue du single, hein, donc, qui s'appelle... Comment il s'appelle, messieurs ?
Some Other Guy.
Bravo. Taking our love just like a heart.
Super version, hein,
ouais,
réellement.
Super, oui, oui,
ah, ouais. Bon, on a reconnu les petits Jack White.
Oui, absolument. C'était donc on a d'abord écouté l'original de Richie Barrett, single en 62, Some Other Guy. Et là, c'était donc les Henchmen. Henchmen, c'est un groupe de garage punk américain originaire de Detroit, Michigan, formé en 92. Et Jack White a collaboré de près avec les Henchmen. Hein. Il a participé assez souvent. Il fait quelques morceaux sur les albums. Il y a un album des Henchmen dans lequel il a chanté entièrement. Avant qu'il ne forme les White Stripes. Hein. Oui, super. Il a une voix d'enfer. Hein. Là, il est vraiment extraordinaire. Voilà, ça m'a fait bien plaisir de vous faire écouter les Henchmen, car c'est très très bien.
Exactement, tout à fait. Alors les amis, on va ici bientôt l'heure. Il est moins 7, moins presque moins 6. De se dire au revoir. Rendez-vous dans 15 jours. Ce sera le 9 octobre pour une spéciale.
Numéro 69.
Oui. Et là, je peux vous dire qu'elle va être hot, celle-là. Quoi. Elle va être hot. Alors comme je vous l'ai dit, on se dit au revoir. Et donc on va finir par des beaux losers. Donc les Creation, groupe formé en 66 sur les cendres des Mark IV, hein, par Kenny Pickett et puis Eddie Phillips. C'est leur tube, Making Time, avec pour la première fois un solo de guitare à l'archer. Hein, et ça sera enchaîné par les Tintern Abbey, c'est-à-dire l'abbaye de Tintern, hein, tout simplement. Donc oui, alors les Creation donc, se forment en 66 et split en 68. Et les Tintern Abbey se forment, eux, en 67 pour un seul 45 tours qu'ils enregistrent en décembre 67. Et ils se séparent, eux, en août 68. Ouais, avec le super morceau Vacuum Cleaner.
Nettoyeur de sol, c'était peut-être pas une bonne idée d'appeler son premier titre comme ça non plus.
Néanmoins, le 45 tours maintenant cote plus de 1000 livres. Ah, voilà, on se fait des bisous, on
allez,
se dit à bientôt.
Salut
puis,
tout le monde.
Et puis on y va.
with your sweet dose. Now feeling like it goes. Break it up, let's have it now. Yeah. Don't you know I need it all the time? Fix me up with your sweet dose. Now feeling like it goes. Now my head is really spinning. Maybe now I'll show some willing to help me do the housework before the turn. Pick it up, bring it up, let's have it now, girl. Don't you know I need it all the time? Mix me up with your sweet toast. Now feeling like a ghost. Whoa, whoa.